Pascal CV qui a eu quelques insultes tantôt, on va se le dire.
Ah, j'aime ça, là, continuer.
Parce qu'elle les a demandées.
Grosse erreur, là, non? Là, de... Malheureusement, dire que la politesse, pour moi, est un gros turn-off, mais clairement, je voulais parler d'impolitesse. Ouais.
Et tu sais, des fois, tu me dis, Yann, j'ai l'impression des fois que tu m'écoutes pas parce que je fais plusieurs affaires, m'occupe des ordinateurs, Yann, m'occupe de la mise
Yann,
en onde.
Yann, n'essaie pas. C'est connu et tu es connu pour ne pas écouter. Les auditeurs, Audrey, moi, les boss, tout le monde te le dit.
Et dans l'extrait, on entend clairement ton collègue de travail préféré dire ce que tu veux dire, Pascal, c'est l'impolitesse.
Cette fois-ci, tu as été extrêmement élégant.
Voilà.
Oui, mais tu as été élégant parce que tu allais pouvoir jouer avec ça et rire de moi longtemps.
Ah oui,
mais c'est pas grave, c'est pas grave, on t'aime pour ça aussi.
C'était impossible qu'il y ait une bonne intention.
partiel. Tu connais ça des partiels?
Une
là?
Bonne bon, intention
partiellement, il y avait de la bonne intention là-dedans. Ouais. Mais il y avait beaucoup de spectacles qui étaient sur un plateau d'argent. Là.
Parlant de partiel, j'ai entendu parler d'une histoire qui s'est déroulée dans la grande région de Québec, dans un hôpital. On a perdu le partiel du monsieur.
Un dentier, là?
Oui. Puis j'imagine qu'il y avait plein de gens qui étaient bien intentionnés, là, okay. Mais le monsieur n'a plus de dents.
Là, toi...
Puis il est à l'hôpital. Tu sais, t'es à l'hôpital, t'es pas à ton prime, là.
Non.
Tu sais, tu te sens pas comme Elvis Presley à 20 ans, là. Tu comprends? T'es pas...
Ouais. Un peu moins de foule, un peu moins de gloire.
Quand ils rentrent dans ta chambre, là, t'es en chemise...
Un peu moins de succès.
T'es en chemise bleue, c'est pour que tu te lèves devant eux, ils te voient, il y a le péteux.
Ouais.
Tu te sens pas à ton prime, puis ouais. Là, ils ont...
T'as plus de dents.
Ils t'ont enlevé tes dents.
OK. Suite à une opération.
Non, c'est d'après moi, ils ont fait le ménage de la chambre. Moi, c'est ma théorie.
Ils sont partis
moi,
avec le verre d'eau dans lequel il y avait le dentier.
Ils ont fait le ménage. Ils mettent ça encore ça dans les verres d'eau, comme dans le temps? Dans les verres d'alcool?
Je sais pas. Polydent existe ouais. Et ça, tu le dilues dans l'eau. Après,
moi, ce
tu
que
le
je
dedans.
Pense, c'est que ça a passé. Il doit l'avoir mis pendant, quand il s'est levé là, ou pendant la nuit. Il doit l'avoir mis dans, exemple, un truc acheté. Puis là, la personne qui est passée pour faire le ménage, elle n'a pas vérifié puis elle sacré ça aux poubelles.
C'est juste que c'est pas 2,5$, hein, parce que celui de 2,5$, il te fait tout avoir un look.
Fait qu'imagine-toi, Pascal, t'es à l'hôpital en chemise bleue, t'es magané comme pas possible, tu veux guérir pour sortir de là, puis tout le monde qui vient te voir te voit pas dedans pour la première fois de leur vie.
Pauvre monsieur.
Ah ouais, des affaires comme ça qui arrivent. Hey, passons à un autre sujet que la perte d'un partiel. C'est notre ami Victor Henriquin, qui est là, qui est analyste politique. Salut Victor!
Salut, Yann.
Très content de te jaser. Tu viens-tu juste de te lever, toi? T'es-tu couché à 2h du matin?
J'aimerais bien me dire ça, oui. Je me suis couché à 3h du matin, mais j'ai des enfants qui, à 6h30, voulaient connaître le résultat de l'élection. Donc, l'analyse pour eux a commencé tôt au matin.
Les enfants qui voulaient connaître le résultat de l'élection à 6h du matin, ils ont 18, 23 ans?
Non, ils ont 6 et 9 ans, mais ce qu'ils disent, c'est que les chats font pas des chiens. Donc, imaginez comment on parle politique à maison. D'après moi, ça s'est transmis.
Ouais, mais les enfants de Yann sont super, puis Yann, c'est le père.
Ouais. Ils tiennent plus j'irais de leur mère.
Moi, j'irais pas là tout de suite.
Mais c'est curieux, hein, Victor, puis je sais pas, toi, si t'étais très alerte quand t'étais jeune, là, mais sur la politique, je veux dire, mais nos jeunes s'intéressent à la politique. T'sais, mon jeune de 12 ans me rapporte des propos sur la politique qu'il a entendu à l'école. Il me parle régulièrement de Donald Trump, de Mark Carney, de Pierre Poilievre. Il me demandait en fin de semaine, t'sais, pour qui j'allais voter, pourquoi j'allais voter pour cet individu-là, exemple. C'est le fun de voir ça. Puis j'imagine que les professeurs, ils sont pour quelque chose. Là. On parle de politique dans l'école. Puis si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Fait que t'es aussi bien d'en entendre parler à l'école en
mais
premier.
Je trouve ça extraordinaire si les enseignants portent ne serait-ce qu'un peu d'attention à ça, parce que c'est pas vrai que c'est dans tous les foyers. Tu sais, je veux dire, Victor Henriquez, Yannick Marceau, les deux, vous êtes dans les médias. Bon, pour un, il y a eu de la politique beaucoup dans le parcours aussi. C'est un peu normal que ce soit dans les sujets de conversation, mais il y a des enfants qui n'ont pas cette chance-là ou ils ont cette chance-là, ça dépend de comment on le voit. Sauf que des enfants politisés ou du moins allumés par la politique, hein, wow, peu importe là, comment ça se manifeste, peu importe si c'est vrai, si c'est comparable à ce qu'un adulte va procéder dans sa tête, le moment où il y a des débats autour de la table à souper ou que l'enfant peut commencer à faire des liens dans sa tête ou encore de commencer à se politiser puis à avoir une opinion qui va changer avec le temps. On commence tout à gauche puis on finit tout à quelque part, que ce soit à gauche ou à droite, mais on est tous un peu dans l'entraide envers les autres au départ. Moi, je pense que ça, c'est à valoriser, là.
Mais je t'amène une perspective aussi, hein. Tu sais, on a des jeunes qui, d'abord, avec les réseaux sociaux puis l'Internet, sont exposés à beaucoup d'informations. Puis il n'y a pas juste de la mauvaise information. Là-dedans, il y a aussi toute l'information sur le politique, Trump et tout ça. Puis on a aussi des enfants qui, dans les dernières années, ont été exposés à beaucoup de choses où le politique est mêlé. Tu sais, il y a eu la pandémie. Rappelez-vous les conférences de presse. Au début, nous, on écoutait ça en famille. Puis
La fameuse messe de 13 heures.
Mm-hmm. On écoutait ça en famille. Puis j'ai arrêté parce que ça créait de l'anxiété chez eux. Puis tu sais, Donald Trump, il voit ça, ça crée de l'anxiété aussi. La guerre en Ukraine, il voit beaucoup de choses. Alors, il faut gérer l'information aussi parce que c'est quelque chose de très positif. Mais en même temps aussi, il faut leur expliquer que tout ce qu'ils voient n'est pas un drame immédiat dans leur quotidien. Parce que ça peut devenir très anxiogène, la politique. Nous, on en parle souvent. Mais à cet âge-là, il faut gérer les deux. Donc, il y a du bon, du mauvais, mais je comprends ce que tu dis. Puis, je pense que la période aussi fait qu'il y a un intérêt peut-être plus grand puis que les jeunes entendent plus de choses.
Oui, puis c'est le fun. Puis, ça nous permet de trouver un sujet autre avec nos enfants que les jeux vidéo puis les films d'horreur.
Oui, vive parler de la politique fédérale. Ouais, c'est pas un film d'horreur, pas tout ça.
Victor, tantôt, je parlais avec Pascal et mon collègue Denis Gravel. Puis, bon, bien entendu, on parlait de la soirée d'hier, mais des résultats qu'on peut consulter aujourd'hui. C'est la première fois depuis que je suis la politique fédérale et provinciale ainsi que municipale, c'est la première fois que je vois que les cinq principaux partis au fédéral sont tous perdants. C'est incroyable. À commencer par le Parti vert qui, visiblement, ont réussi à élire qu'une seule personne. Le NPD qui a perdu son chef et qui a diminué au nombre de députés. Le Bloc québécois qui a diminué avec le nombre de députés. Parti conservateur qui a augmenté avec le nombre de députés, mais ils n'ont pas gagné le gouvernement. Puis Pierre Poilievre a perdu dans son comté. Et Mark Carney qui voulait un mandat fort avec une majorité, puis finalement se ramasse dans un gouvernement minoritaire où là, on aura quoi, 18 à 24 mois avant de retourner possiblement en élection s'il n'y a pas d'accord avec les autres partis. C'est la première fois depuis que je suis la politique que tous les partis qui étaient aux élections ont perdu un peu.
C'est vrai, ça. Et c'est quand même phénoménal parce que, je vais revenir, je vais le faire dans l'ordre inverse de ce que tu as fait. Du côté de Mark Carney, on pouvait s'attendre à tellement pire aussi. Je pense qu'à la limite, c'est peut-être celui qui a le moins perdu hier. Parce que il est quand même à 168, 169 députés. On verra les chiffres finaux. Il est à 4 députés d'une majorité dans un parti qui était 25 points en arrière il y a quelques mois. Est-ce que vraiment, oui, il pouvait s'attendre à mieux parce que les sondages semblaient indiquer qu'il y avait quelque chose qui se passait face à sa popularité. Mais dans son cas, il a littéralement sauvé les meubles. Du côté du Bloc, on arrive à donner l'impression de sauver les meubles pour Yves-François Blanchet parce que ça aurait pu être pire, mais en même temps, on a quand même perdu une dizaine de comtés. Et pour Pierre Poilievre, c'est horrible parce que lui, il a gagné une vingtaine de comtés en Ontario, là où c'est le plus difficile, là où en principe on fait les gouvernements, mais il a perdu dans son comté par 3000 votes, ce qui amène dans le fond un psychodrame qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au Parti conservateur.
Mais qui va céder sa place nécessairement? Bon, ce serait un député, ça va être pour des raisons familiales, et par la suite, on va voir un Pierre Poilievre qui va arriver. C'est clairement ça qu'il va faire, mais en même temps, un député qui va là par valeur fondamentale, puis dit « moi, je veux vraiment changer les choses », est-ce qu'il est porté à laisser sa place au chef? T'sais, ça prend beaucoup d'humilité, puis on va se le dire, il y en a qui sont en politique, puis ils perdent de l'argent, puis il y en a d'autres qui sont en politique, qui gagnent beaucoup d'argent. Dans le cas où c'est quelqu'un qui allait en politique parce qu'il avait des belles valeurs fondamentales puis qui se ramassait avec un salaire très élevé comme il n'avait jamais eu de sa vie, laisser son comté, ça prend beaucoup de valeurs fondamentales.
Ah, tout à fait. Puis c'est des salaires en haut de 180 000 par année.
Ben, c'est du 200 000 pour ce qui est du fédéral.
200 000 à peu près. Donc, on parle de quelqu'un qui doit être indépendant de fortune, ouais. Première chose. Ensuite, on va parler de quelqu'un qui doit être dans un comté absolument sûr parce qu'on ne veut pas prendre de chance que ce soit une bataille si un autre parti décide de présenter quelqu'un. Et ensuite, le problème, c'est qu'on n'a rien à offrir à ce moment-ci. Parce que lorsqu'on se retrouve au pouvoir, par exemple, et ça, on l'a déjà vu, des chefs qui perdent leur comté, mais qui sont au pouvoir, arrivent à convaincre un élu en lui promettant une nomination ou une position qui va lui permettre un peu de compenser cette perte. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas ce genre de compensation. Et l'autre chose, c'est que M. Poilievre a dit vouloir rester lui. Maintenant, on sait que les conservateurs, le parti a tendance à expulser assez rapidement les chefs qui perdent des élections. Et dans ce cas-ci, aussi belle soit la défaite, c'est une défaite quand même. Erin O'Toole s'est fait sortir, Andrew Scheer s'est fait sortir, et là, il y a des gens qui vont pousser. Et regardez du côté de Doug Ford et de son groupe, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a une véritable guerre fratricide chez les conservateurs en Ontario, entre les gens proches de Doug Ford et les gens de chez Pierre Poilievre. On ne se parle pas. Hier, il y a eu des déclarations très dures, notamment d'un député qui a été élu hier, qui a accusé Doug Ford de ne pas les avoir aidés dans cette campagne. Mmh. Il y a beaucoup d'animosité entre eux, et je suis pas sûr que les conservateurs veulent tous garder Pierre Poilievre. Donc ça, ce sera le psychodrame dont je te parle pour les prochaines semaines. Ça va être à suivre, parce qu'il n'y a absolument rien qui est fait dans ce cas-ci. Et même s'il y a un député qui quitte, il y a quand même un processus à mettre en place pour déclencher le partiel, pour que les autres partis présentent personne, etc., etc.
Ça grenouille beaucoup pour Caroline Mulroney, qui serait une excellente candidate, une mère de famille. Je pense qu'elle a 4 enfants. C'est une juriste, une femme extrêmement intelligente qui, est ministre en Ontario. Est-ce que ça pourrait être une bonne candidate pour faire face à Mark Carney dans 18 ou dans 24 mois, si élection il y a?
Ce serait une excellente candidate. Ce serait de voir combien de temps ça va prendre. Moi, je pense que dans le cas de Caroline Mulroney, l'idéal, ce serait 24 à 36 mois. À 36 mois même, pour donner le temps aussi à Mme Mulroney de développer quelque chose de différent dans le ton de la conversation. Le résultat d'hier, c'est un résultat, oui, parce qu'il y a une certaine instabilité qui peut s'installer, mais je reviens sur la notion de minoritaire fort. On est quand même à 4 députés, à 4 votes, d'avoir une majorité pour les libéraux. Ce qui veut dire qu'à la pièce, que ce soit dans les députés bloquistes ou du NPD, on est capable de trouver des voix qui vont nous permettre de rester un certain temps. Mme Mulroney, elle a besoin de temps. D'ailleurs, elle a appuyé par Pierre Poilievre. Il y a une raison à ça. C'est pas seulement qu'il y a une idéologie philosophique qui correspond entre les deux. C'est aussi parce que Mme Mulroney sait que si elle veut un jour être chef du Parti conservateur du Canada, elle doit recréer des ponts avec l'Ouest canadien, notamment. Donc oui, ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, pour ça, il faut d'abord que le psychodrame de savoir si Pierre Poilievre reste ou quitte soit réglé. Donc, c'est là où les libéraux ont du temps devant eux. Moi, je pense qu'on a plus de 24 à 36 mois que de 18 à 24 mois, je te dirais.
J'ai une question par rapport à... Bon, on va reculer d'un paragraphe, là, quand vous parliez des chefs comme Pierre Poilievre, comme Mark Carney. J'ai l'impression que Mark Carney a été à la bonne place au bon moment dans la situation. Actuellement, c'est sûr que le Parti libéral est aux anges. N'ayant pas cru, il y a 4 mois, qu'elle allait se faire élire pour encore quelques années à la tête du Canada. Donc, on doit probablement avoir en tête que c'est à cause de Mark Carney. Et tout. Mais j'ai peut-être l'impression que ça pourrait s'essouffler vu le background très Justin Trudeau qui est avec Mark Carney. Même chose pour Pierre Poilievre. S'il y a déjà des réfifis au sein du parti, est-ce qu'on va devoir rebrasser certaines cartes et est-ce que la poussière va tomber et faire changer le portrait au Canada en ce moment dans des différents partis?
C'est vraiment le point que tu amènes, Pascal, parce que c'est l'élément le plus important des prochaines semaines pour Mark Carney, c'est d'amener le changement dans la continuité. Ça va être un grand défi. Comment est-ce qu'on fait pour faire oublier les années de Justin Trudeau, qui clairement aurait coûté le pouvoir au Parti libéral du Canada? Garder l'expérience positive de certaines personnes qui sont restées là, parce qu'il y a des gens qui ont été réélus, qui ont la confiance du public, mais aussi amener une nouveauté qui va permettre au Parti de se redéfinir. Et ça, c'est le grand défi de Mark Carney. Moi, je m'attends, par exemple, à un conseil des ministres. On nous annonce un conseil des ministres d'environ 2 semaines. Où est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté? Il va y avoir des visages forts qu'on ne connaît pas, qui vont devoir être à des postes névralgiques pour être sûr qu'on voit une différence. Alors ça va être extrêmement important pour lui. Mark Carney amène un gouvernement de gestion de crise. Dans un gouvernement de gestion de crise, on veut avoir des gens qui sont dans l'action. Alors on va avoir un conseil de ministres plus petit qu'à l'époque de Justin Trudeau. On s'attend à quelque chose comme 22, 24 ministres. Et moi, je m'attends à beaucoup de nouveautés. Peut-être un peu plus que même la moitié du conseil des ministres, d'après moi, devrait être des nouveaux visages, avec une parité homme-femme qui, cette fois-ci, serait essentielle. Ça n'était pas dans le conseil des ministres temporaire qu'il avait nommé au début du mois de mars. Là, ça devrait l'être. Donc, c'est les éléments que je m'attends à voir pour justement entamer cette démonstration de nouveauté. Oui. Que Mark Carney voudra amener.
Parce que ça peut être assez dangereux pour le Parti libéral. On parle dangereux politiquement parlant, là, que cette fébrilité-là, ce bonheur-là s'estompe et qu'il y ait même, je pense, à nouveau des problématiques au sein du parti.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis déjà ce matin, je parlais avec des gens, puis je sentais que c'était tendu. Je sentais qu'il y avait de la nervosité.
Ah oui, déjà?
Il y a déjà de la nervosité parce que là, ce qu'on va commencer à voir, c'est des batailles. D'abord, hier, c'est le Québec qui a permis à Mark Carney de conserver une position forte. Sans le Québec hier, Mark Carney se retrouvait avec, mettons, 15 de députés de moins. Là. On se retrouvait dans une situation beaucoup plus faible, peut-être même aussi faible ou même un peu moins forte que celle de Justin Trudeau. Donc, il doit beaucoup au Québec, mais ça va beaucoup tirer en Ontario aussi, parce qu'autour de Mark Carney, il y a beaucoup de gens de Toronto. Et chez les libéraux, il y a toujours eu cette bataille-là. Est-ce que le pouvoir est entre les mains de Toronto ou est entre les mains du Québec? Il y a toujours un tiraillement à l'interne. Et ça, c'est l'équilibrage que Mark Carney devra faire. Donc, c'est tout ça qui va se passer la prochaine semaine. Oui, il y a du bonheur d'avoir gagné cette élection-ci, mais en même temps, il y a de la nervosité parce que tout le monde est conscient que la défaite était très proche. Et peut-être même qu'avec une couple de jours de plus, on n'aurait pas eu le même résultat parce que, oui, ça a été très fort en début de campagne, mais regardez à la fin de la campagne, notamment en Ontario, les conservateurs ont pris 1 point par jour environ, ont récupéré des comtés dans la grande région de Toronto Et ça, à long terme, ça donne des indications que les libéraux sont peut-être pas dans une position très, très solide.
Victor Henriquez, comment t'expliques, là, parce que je regarde le Québec, là, visiblement le Québec est bipolaire et tripolaire quand on regarde ça. Montréal, c'est rouge à la grandeur, sauf peut-être à un endroit où il y a un NPD qui est passé, c'est Boulris qui est passé avec un 40%. Oui. Mais Montréal est rouge à la grandeur. Sherbrooke est rouge dans le secteur de Cowansville. Ouais, c'est ça, Cowansville, c'est rouge aussi. Après ça, Saint-Hyacinthe-Granby, on est dans le bloc québécois à côté. Et dépassé Drummondville, on est rendu bleu, 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 jusqu'à quoi? Presque trois pistoles. Puis à Québec, au centre-ville, je te dirais, là, on est très, on est rouge. Donc, on a trois comtés, là. Comment t'expliques cette différence-là entre les gens de Montréal et les gens de la grande région de Québec, rouge et bleu?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein. D'abord, les conservateurs ont fait leur meilleur score au Québec hier, c'est aux alentours d'un peu plus de 20%. Donc, je pense que d'abord, dans la région de Montréal, il y a le fait aussi de se dire, à Montréal, les gens ont voté pour choisir le gouvernement. Les gens à Montréal sont bloqués sous libéraux, ont tendu, notamment dans la couronne nord, couronne sud, ont tendu vers les libéraux parce qu'ils voulaient avoir le choix du gouvernement. C'est ce que Marconnay avait demandé et les Québécois ont répondu à ce besoin-là. Dans la région de Québec, ça fait plusieurs années qu'on sent un élan plus de droite, on veut des gouvernements plus responsables, on veut moins de gouvernements en général. Aussi dans la région de Québec, on a des gens qui, peut-être même dans des régions plus entrepreneurs, des régions plus autonomes, où est-ce que le discours est un peu différent. Et ce qu'on sent, c'est que dans ces régions-là, les conservateurs ont beaucoup de résonance. C'est ce qu'on a vu hier avec notamment le gain dans Montmorency-Charlevoix. Donc, on a une tendance conservatrice, mais cette tendance conservatrice n'est pas nouvelle au Québec non plus. Hein. Bon, faut quand même se rappeler qu'avant que le Bloc québécois soit là, les conservateurs avaient beaucoup de succès au Québec. Ben, oui. Vous voyez, dans un moment donné, ça a été le cas. Donc, je pense qu'il y a toujours ce fond-là. Et il faut se le dire, les Québécois sont très intelligents politiquement. Les Québécois font des votes stratégiques assez fréquemment. Et hier, ce qu'on a vu, c'est ça. C'est un vote stratégique. Dans la région de Québec, on voulait Pierre Poilievre comme premier ministre. On a poussé le plus fort qu'on pouvait. Dans la région de Montréal, on voulait un gouvernement libéral. C'est ce qu'on a poussé également. Et je pense qu'un peu dans les autres régions du Québec, ben, il y a toujours ce vote refuge que le Bloc représente. Le Bloc représente l'endroit où on vote quand on n'est pas trop sûr, on ne se sent pas vraiment représenté d'un bord ou de l'autre, et on s'en va se réfugier là. Et c'est ce que Yves-François Blanchet a joué comme carte à la fin. Là, il disait, donnez-nous une voix forte pour négocier avec Mark Carney qui sera au pouvoir. C'est un peu ça, ça a été les dernières cartes. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre-Plamondon a critiqué ça ouvertement ce matin, mais d'après moi, il a sauvé les meubles dans plusieurs régions.
Je parlais avec des analystes politiques dans les derniers jours, puis moi, le message était très clair. Là. Jack Meeting devait quitter, c'était une mauvaise campagne pour lui, ses débats étaient épouvantables, tellement que je me suis dit, y a-t-il une entente entre Jack Meet et Mark Carney pour le faire bien paraître? Là, il a démissionné hier, il a perdu beaucoup de députés. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il a fait une bonne campagne, comme certains analystes se plaisaient à le dire, ou finalement, il a été plus qu'ordinaire dans cette campagne-là?
Moi, je pense qu'il n'a pas fait une si mauvaise campagne que ça. Il a été très mauvais à la fin du débat en français. Là, on va se le rappeler quand il avait décidé de chicaner avec Patrice Roy sur le thème de la santé, ouais. Alors que c'est un thème provincial, honnêtement. Il avait très mal paru là-dessus. Mais en général, il n'a pas fait une si mauvaise campagne que ça. Je pense que le NPD avait perdu ses élections à partir du moment où ils avaient signé l'entente avec les libéraux. Puis pendant deux ans, ils ont appuyé les libéraux, ils ont maintenu au pouvoir. Ce qu'on voit, c'est que le NPD est tombé aux alentours de 6%. Et ils lui ont fait payer le fait d'avoir gardé les libéraux au pouvoir aussi longtemps en se disant, si tu vas appuyer qui tu décides à notre place, ben nous, on va choisir notre gouvernement à la place. Et c'est ça qui est arrivé. Et si on regarde le NPD, il faudra que le NPD fasse attention à une chose. Jack Meeting a perdu, les gens de Burnaby lui ont rendu service en ne le disant pas, comme ça il peut quitter la tête haute et il va pouvoir faire autre chose de sa vie. Mais la gauche a perdu énormément ici. Et la gauche a notamment perdu la connexion avec la classe ouvrière. Regardez dans la région, la grande région de Toronto, dans les milieux ouvriers, là où il y a des syndicats qui ont toujours naturellement appuyé le NPD, qui cette fois-ci appuyaient les conservateurs. Regardez dans la région de Vancouver, plusieurs comtés du NPD qui sont passés aux mains des conservateurs. Il y a une déconnexion entre la gauche et la classe moyenne. Et ça, ce serait intéressant à analyser pourquoi, mais dans le message, il y a quelque chose dans le message du NPD qui ne colle plus à monsieur, madame, tout le monde. Ou est-ce que les gens qui travaillent fort, qui travaillent extrêmement fort pour leur argent, ne veulent peut-être plus d'un gouvernement qui va dépenser sans compter. Et ça, à un moment donné, ça finit par donner des résultats comme celui d'hier. Donc, oui, la reconstruction du NPD, on peut dire c'est Jack Smith, c'est pas Jack Smith. Mais ultimement, je pense pas que ce soit Jack Smith single l'enjeu. D'ailleurs, je vous ramène au Québec. Quand on regarde Québec solidaire et ses difficultés, on peut se poser la question si c'est pas un peu le même genre de phénomène aussi. Parce qu'on semble, on a l'impression que le discours de gauche nous connecte plus comme membres de la classe moyenne. Et dans ce temps-là, ben, on finit par rapetisser la quantité de gens qui votent pour nous.
Parce qu'on a, on s'est séparé de la représentation des gens de terrain, des gens du peuple, de la classe ouvrière, on peut le dire comme ça, versus, mettons, un militantisme qui est la principale préoccupation du parti.
Oui, je pense que c'est... Oui, il y a une partie de ça, mais il y a aussi le fait que les gens, en ce moment, ils voient ce qui est... ils voient leur quotidien, puis ils voient que leur quotidien ne s'est pas amélioré malgré les gouvernements qui avaient des intentions ou qui disaient avoir des bonnes intentions envers eux. Ce discours de la classe moyenne, de l'inflation, là, on voit le discours de Pierre Poilievre, il n'a pas juste porté au Québec, dans la région de Québec. Il a porté dans la grande région de Toronto, il a porté ailleurs, dans la région de Vancouver. Alors, pourquoi est-ce qu'il porte? Justement parce que les gens, peut-être de façon plus individualiste aujourd'hui, et ça s'explique très bien, les gens, ils regardent ça et ils disent « Mais comment ça se fait que mes gouvernements dépensent sans compter puis que moi, j'en ai toujours moins dans mes poches? Mm-hmm. » Là, à un moment donné, il va falloir que les partis politiques répondent à ça. Et ça aussi, c'est un défi pour Mark Carney. Parce qu'il ne peut pas nier que, oui, il y a la menace américaine, mais que derrière cette menace américaine-là, s'il n'y avait pas eu cette menace-là, il ne serait pas au pouvoir.
Est-ce que le parti, comment va... est-ce que le parti néo-démocrate, le NPD, va rester bien vivant dans les prochaines années ou ça pourrait s'effriter encore plus?
Moi, je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça va prendre des noms aussi, des gens qui sont très crédibles, qui vont revenir auprès de ce parti-là. C'est un parti qui, pour moi, va être dans l'ombre dans les 2, 3, 4 prochaines années. Le prochain mandat, ça va être très compliqué pour eux. Puis ça sera de voir comment ils se réorganisent et autour de quoi ils se réorganisent. Je vous explique. Hier, Alexandre Boulris a fait un discours très dur envers la droite. Il a même parlé de fascisme. Ça, je ne pense pas que ça serve tout le mouvement du NPD. Et il y a le NPD de l'Ouest, qui, lui, est très différent de ce qu'on peut voir, par exemple, chez QS ou ici au Québec, et qui, lui, est un mouvement peut-être plus au centre. Alors, ce sera de voir c'est quelle partie du NPD qui prend le pouvoir dans les prochaines années et sur quelle base ils se reconstruisent. Parce que tout est une question de message et de à qui on parle. C'est qui notre public? Moi, je pense que ça va être long de définir ça entre eux. Et pendant ce temps-là, les 7 députés du NPD qui vont être à la Chambre des communes, ben c'est là où ils vont devenir un peu les faire-valoir des autres partis. Donc, ce serait trouver une façon de garder un discours intéressant. En même temps, ils veulent aider le Canada à fonctionner. Parce qu'hier, M. Singh l'a dit, on va mettre le Canada d'abord. On est tous partie d'équipe Canada. Alors, ce serait intéressant de voir ça, mais il va falloir que les gens du NPD soient patients.